Bari yu bayi diri diri yam dam bum 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 bum. Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Me voilà de retour. Et alors, on fête bientôt Rosh Hashanah.
Voilà. Ça et revient. Comme cette année, les fêtes tombent tard, elles ne commencent qu'en octobre, d'où nous avons repris nos émissions déjà début septembre. Et donc, on va pouvoir faire des émissions sur les fêtes de début d'année. Hein, parce que d'habitude, quand on commence, elles sont déjà finies ou en cours. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de Rosh Hashanah, la première fête de l'année, le début de l'année. Et donc, j'ai trouvé des textes en particulier sur Tachlir. Alors, Tachlir est une coutume de Rosh Hashanah. Donc, on fait le premier jour de Rosh Hashanah, Mincha, ou le deuxième jour quand le premier jour tombe à Shabbat. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'aller au bord d'une eau courante et de vider ses poches ou de lancer des cailloux. Là, c'est plutôt vider ses poches, vider les miettes dans les deux textes que j'ai apportés pour se débarrasser de ses péchés. Donc, on dit que c'est ce qu'on va lancer dans l'eau doit disparaître définitivement et que nos péchés disparaissent. Donc, ça fait partie de tout le processus qui commence début Elul avec les slichot, les prières de supplication, puis Rosh Hashanah, évidemment, qui se termine à Yom Kippour, ou même après Yom Kippour, donc tout ce processus de pardon des péchés, aussi d'examen de conscience, voilà, ce qu'on appelle en hébreu et en yiddish, cheshbon ha-nefesh, c'est-à-dire de regarder en soi, de voir ce qu'on a fait de mal pendant l'année, et de se réconcilier avec les gens avec qui on est fâché, c'est-à-dire que c'est très important de faire la démarche de se réconcilier, puisqu'on dit que Dieu peut pardonner les offenses qu'on a commises envers lui, mais il ne peut pas pardonner les offenses qu'on a commises envers les autres.
Pour revenir sur d'un point de vue plus sociologique, anthropologique, cette histoire d'eau courante, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on y pense. Là, Tachlir, après il y a Tevila, où on doit tremper les choses neuves, la vaisselle neuve dans de l'eau courante. Et puis aussi, avant Pessah, on jette aussi dans l'eau le dernier Hametz avant de...
Non, le Hametz, on le brûle plutôt. Hein.
On le brûle, on le
jette. Oui, c'est plutôt le mikvé, hein, là où les femmes se trempent.
Soi-disant, de préférence dans l'eau courante.
Ah, alors, dans l'eau courante, il faut que ce soit de l'eau courante. Oui,
donc c'est peut-être c'est la seule eau courante. L'eau courante, c'est celle qui est propre. Celle qui est...
Oui, c'est aussi là que vivent les poissons aussi. Enfin, encore que pas dans les bains rituels, mais... Non. Oui, c'est effectivement un synonyme de vie, quoi, contrairement à l'eau stagnante qui, elle, a tout à fait... Oui, qui ne peut pas servir pour ce genre d'usage, hein, c'est vrai, oui. Voilà, il y a d'ailleurs un très beau tableau que j'ai vu. Il y a plusieurs tableaux représentant Tachlir. Et j'en ai vu un en Pologne, au musée de Varsovie. Maintenant, je n'ai plus en tête. Ça se trouve, mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'idée de regarder. Mais il y a des tableaux qui représentent cette coutume.
Donc, une foule, tu te rappelles ce qu'il y a sur le tableau? Plusieurs personnes?
Ah oui, des foules entières qui descendent vers l'eau, hein, vers la Vistule, hein, puisqu'on est à Varsovie. Ici, effectivement, je me souviens qu'on allait donc en groupe quand j'allais à la... ça se fait toujours, évidemment, quand on va à la synagogue de la paix, on va donc vers l'île, hein, qui est juste derrière, là aussi en groupe, juste avant ou après Mincha, je ne sais plus, avant Mincha, pour jeter ses péchés dans l'eau. Voilà, donc je vous lis le texte de Béla Chagall. Donc, nous en avons parlé déjà à multiples reprises. Béla Chagall, donc très connue évidemment parce qu'elle est l'épouse de Marc Chagall. qu'il a connue très jeune. Hein, ils ont fait connaissance quand elle avait 17 ans, 14 ans, pardon. Elle avait 14 ans, lui était un peu plus âgé. Les parents de Bella, qui étaient des gens aisés, ne voulaient pas qu'elle épouse ce va-nu-pied d'artiste, mais elle a tenu bon et elle a bien fait. Et donc ensuite, elle l'a suivi à Paris, puis elle l'a suivi dans son exil aux USA quand il a dû partir. Et elle est décédée prématurément en 1944, mais elle a eu le temps d'écrire donc des mémoires ou plutôt des petits, on peut dire des tableaux de son enfance. C'est pas systématique, hein. En particulier sur les fêtes, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des moments importants dans des familles traditionnelles, religieuses et aussi aisées. Hein, vous allez voir, il y a toutes sortes d'éléments qui montrent que c'était vraiment une famille à l'aise. Alors, ce livre a été traduit en français, donc ça s'appelait Brennendickelicht d'abord. Ça a été édité en yiddish assez tôt, je n'ai pas la date en tête, dans les années 50, je pense. Ensuite, ça a été traduit en français par sa fille, par leur fille, la fille de Marc et de Bella, qui s'appelle Ida, qui a vécu en France et qui l'a traduit d'abord en 73. Et puis, ça a été réédité en 2015. Voilà, donc c'est l'édition que j'ai.
Sous le titre Lumière
allumée.
Lumière allumée.
Lumière allumée, oui. Oui, pas lumière brûlante, oui. Oui, non, lumière allumée, c'est pas mal, parce que, bon, Brennan dit lumière qui brûle, mais je trouve que...
Incandescente.
Ouais.
Enfin, une lumière, normalement, c'est allumée. Je sais pas, je trouve ça un peu...
Je trouve ça bizarre, lumière allumée.
Pas répétitif, quoi, tautologique. Une lumière, c'est allumée.
Bon, on m'appelle ma mémoire d'amis. Lumières, ça brûle aussi. D'ailleurs, c'est plutôt des bougies, d'ailleurs, le mot lirt en yiddish est un peu oui. à double sens, puisqu'en fait, ce sont... C'est surtout les bougies qu'on allume pour Shabbat, bien sûr, et pour les fêtes. Hein, voilà, donc c'est à ça qu'elle fait allusion. Hein, puisqu'on dit allumer l'irt, on ne dit pas allumer des bougies vax, ou je ne sais pas, on dit benchen l'irt, voilà, le mot qu'on emploie pour... et d'ailleurs, pas au pluriel, hein, de façon étonnante, même à Shabbat où on allume deux bougies, on dit benchen l'irt. Mm-hmm. Hein, voilà. Donc, l'an nouveau, donc Rosh Hashanah, donc c'est la traduction d'Ida qui est effectivement très, très française. Elle a voulu que ce soit très, très lisible pour un lectorat français. Hein. Les jours de pénitence arrivent. Toute notre maison s'emplit de bruit. Chaque fête amène avec elle sa saveur, s'enveloppe dans sa propre atmosphère. Un air léger, miséricordieux, lavé comme après une pluie. L'air de l'an nouveau. Après les nuits noires de pénitence, un jour limpide, ensoleillé, se dégage pour la nouvelle année. La semaine des prières de pénitence est la plus tumultueuse. Papa se lève au milieu de la nuit, réveille les frères, tous s'habillent en silence et disparaissent comme des voleurs. Donc ça, ce sont les semaines de Slichot, qui normalement dure un mois. Là, elle dit que ça dure une semaine. Que cherche-t-il dans le froid, dans les sombres rues? Au lit, il fait si chaud. Et s'il ne revenait plus du tout? Nous serions à larmes avec maman. Je commence déjà à pleurer toute seule et m'entortille de plus belle dans les couvertures. Au matin, le visage pâle, épuisé, papa boit son thé. L'agitation d'avant la fête dissipe la fatigue. On ferme tôt le magasin. Tout le monde se prépare à aller à la synagogue. On s'y prépare plus que jamais, comme si on y allait pour la première fois. Chacun revêt quelque chose de nouveau. Oui, voilà, ça fait aussi partie de la fête. Alors, c'est aussi parce qu'on fait la bénédiction Shehriyanu, c'est-à-dire on remercie Dieu de nous avoir permis de vivre jusqu'à présent. Donc, c'est toujours quand il y a quelque chose de nouveau. Et donc, pour ne pas faire la bénédiction simplement comme ça, on met quelque chose de neuf et on mange aussi souvent des aliments qu'on n'a pas mangés toute l'année. Alors, chacun revêt quelque chose de nouveau. Qui ? Un frais chapeau clair, une cravate nouvelle, un costume tout neuf. Maman se pare d'une blouse de soie blanche et avec une âme neuve, elle se hâte d'aller à la synagogue. Un des frères aînés feuillette le gros livre de prière, corde les pages où elle doit prier. Sur ces pages, depuis des années, il y a inscrit de la main de grand-mère « ici ». Maman reconnaît les lignes sur lesquelles elle a pleuré l'an passé. Ses paupières tremblent, elle se hâte vers la synagogue pour pleurer comme si c'était nouveau. Une pile de livres pieux l'attend. Elle les enveloppe d'un grand carré et les emmène tous avec elle. Ne doit-elle pas demander une bonne année pour toute la famille ? Les livres et le châle de prière de papa, c'est le bedeau qui vient les chercher dans la journée. Je reste toute seule, la maison est déserte, je me sens vidée également. L'année révolue traîne quelque part, comme perdue derrière les fenêtres. L'an qui vient doit vraiment être clair et lumineux. Je voudrais avoir au plus vite la nuit derrière moi. Voilà, donc on voit que la veille de Rosh Hashanah, hein, le soir, elle ne va pas à la synagogue, elle reste seule à la maison. Le lendemain matin, je vais également à la synagogue. Moi aussi, je suis revêtue de neuf, de la tête aux pieds. Le soleil brille, l'air est limpide, vivant. Mes chaussures neuves claquent. Je me dépêche. Sûrement, le nouvel an est déjà arrivé à la synagogue. Sûrement, la corne de bélier y résonne-t-elle. Mes oreilles tintent. Il me semble que le ciel s'est abaissé et se hâte avec moi vers le temple. Je cours vers le côté réservé aux femmes. Je pousse la porte. Une bouffée d'air chaud s'en dégage comme d'un four. Un air lourd saisit le souffle. La synagogue est pleine. Les hauts pupitres sont envahis de livres. De vieilles femmes sont assises, affalées. Les jeunes filles paraissent juchées sur les petites vieilles. Les enfants se bousculent entre les jambes des adultes. Je voudrais m'approcher de maman, mais elle est assise si loin à l'avant, près de la fenêtre, du côté des hommes. Dès que je fais un mouvement, une épaule de femme se retourne vers moi et un visage éploré m'adresse un regard noir. Je suis poussée par derrière et libérée, je tombe contre la rampe. Maman me fait un signe des yeux. Elle est contente que je sois près d'elle. Mais où est la corne de bélier ? Où est le nouvel an ? Suis-je venue trop tôt ou trop tard ? Tout d'un coup, une main sort d'un châle de prière tenant une corne de bélier. Celle-ci reste en l'air. Elle laisse échapper un son. Tout le monde s'éveille. On s'arrête de parler. On attend de la corne à nouveau un son rauque, comme si elle manquait de souffle. Toute l'assistance échange des regards. La corne râle, enrouée. Un murmure court. « C'est ça, sonner du chauffard. Il n'a pas de vigueur. Demandez à quelqu'un d'autre. » Et soudain, comme si l'officiant avait vaincu les mauvais esprits qui obstruaient la corne, un son pur et long comme un appel se répand à travers toute la synagogue, emplit chaque coin. Tout le monde renaît, soupire ou approuve de la tête. Le son monte, ébranle les murs, il s'infiltre vers moi, il s'élève au plafond, repousse l'air opaque, emplit mes oreilles, ma bouche. J'en ai mal au ventre. Quand la corne s'essoufflera-t-elle ? Que veut-il de nous, cet an nouveau ? Je me remémore tous mes péchés. Ils se sont accumulés pendant l'année. À peine puis-je attendre l'après-midi. Je me hâte avec maman au Tachlir pour éventer les péchés au-dessus du grand fleuve. Le long du chemin, d'autres femmes, d'autres hommes, tous descendent la ruelle qui mène à la rive. Tous revêtus de noir, comme s'ils allaient, Dieu ne veuille, à un enterrement. L'air est frais. De la haute rive du fleuve, du grand jardin de la ville, le vent cingle, des feuilles volent. Les feuilles rougeâtres, jaunes, telles des papillons, tournoient dans l'air, virevoltent, retombent à terre. Nos péchés volent-ils ainsi ? Les feuilles bruissent, se collent aux bottines, je les entraîne. Avec elles, ce n'est pas si redoutable d'aller au Tachlir. Pourquoi traînes-tu tout le temps ? Laisse les feuilles tranquilles, maman me tire. Bientôt, tout le monde s'arrête. La rue s'est comme scindée. De profondes eaux froides semblent ramper vers nos pieds. Au bord du fleuve, des cercles d'hommes de plus en plus denses. Leurs têtes s'allongent, leur barbe aussi plonge comme s'ils voulaient voir le fond de l'eau. Brusquement, ils retournent leurs poches. De la doublure se détachent des miettes, des petits restes. Les hommes, à haute voix, récitent une courte prière et précipitent miette et péché ensemble dans l'eau. Mais comment vais-je, moi, secouer mes péchés ? Je n'ai pas de miettes dans les poches et j'ai même pas de poche. Je suis debout près de maman et je tremble au vent froid qui soulève mes jupes. Maman me chuchote les paroles rituelles et les prières et les péchés tombent de la bouche droit dans l'eau. Il semble que le fleuve ait grossi de nos péchés et charrie des eaux soudainement noircies. Purifiée, je reviens à la maison. Maman de suite s'assied pour lire les psaumes. Elle veut saisir encore un peu du jour, demander encore quelque chose à Dieu. Un bourdonnement envahit la sombre pièce, l'air s'embue comme les lunettes de maman. Elle pleure, balance sa tête. Voilà, donc nous avons la description tout à fait précise de cette...
Pas très joyeux quand on pense que la musique que je vais faire entendre, qui s'appelle Funtashlir, alors ça veut dire quand on revient d'avoir fait Tashlir, et que les cœurs sont peut-être à de nouveau pacifiés, paisibles, parce que cette musique est très joyeuse. C'est une danse.
En revenant, on est allégé quand même.
Ben la voilà. Alors Funtashlir, on revient de Tashlir et on est tout content parce que vous allez voir que cette musique et la danse qui va avec sont extrêmement enjouées. On se sent bien, hein, après avoir s'être débarrassé de ses péchés.
Oui, alors là, c'est un texte aussi, enfin, beaucoup plus triste encore, je vais vous dire pourquoi. Donc, de Myriam Moulinovert, qui est une poétesse très intéressante. Je ne vais pas détailler sa vie, d'ailleurs, je crois que j'en ai déjà parlé, qui est morte dans le ghetto de Lodz. Ces poèmes ont été rassemblés par Natalia Krynicka, qui les a trouvés un peu partout parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'éditions. Ils ont été traduits par Batia Baum et ils ont fait l'objet d'une très belle édition de la bibliothèque MEDEM, une édition bilingue avec aussi une introduction très documentée. Je ne suis pas toujours d'accord avec la traduction.
Est-ce qu'on a déjà vu une fois que tu sois d'accord avec une traduction?
elle s'éloigne. Batia a absolument tenu à faire une traduction en vers. Alors, c'est vrai qu'il faut être très, très, très indulgent pour les gens qui font des traductions en vers.
Plutôt très, très admirative.
Oui, mais c'est un peu dommage. Bon, je vais quand même vous lire le texte en yiddish et puis je vais le traduire moi-même parce que je trouve qu'elle s'éloigne vraiment
trop.
Jamais
mieux servi que par soi-même.
Alors, Klo Girzirdo Ven wenn in Brivel bräut von Tage die letzte Bräu, die letzte Brise, Bräu, pardon, die letzte Bräu, was ihr pflegt mir abzusporen, dann wird mir die Fremd heraus. Je me plains dans une lettre et me désole. Le pain dans ma poche, le dernier morceau que je gardais précieusement, eh bien, l'étranger me le vole. C'est-à-dire qu'elle se trouve évidemment pas chez elle et donc elle meurt de faim et elle avait juste un petit morceau de pain qui a disparu. Oi, anum glick bob leben un uado in der Fremd muss schon unser eins verlieren, was hat von Leib das Hemd. Oh, quelle misère, grand-mère! Ici, dans le brouhaha, à l'étranger, chacun de nous finit par perdre ce qu'il a, la chemise sur son corps, hein, jusqu'à sa dernière chemise. Kum dein Tschuwe, Bob Leben, wert mir plutz im Alsting Chlor, bis zu Taschlich nicht gegangen in der Fremd zum Einheb Jahr. La réponse m'arrive de ma grand-mère et tout me devient clair. Tu n'es pas allé à Taschlich à l'étranger au début de l'année, donc elle n'a pas fait la. Ce qu'il fallait, quoi. Elle n'a pas fait cette
mitzvah. C'est une mitzvah.
Cette mitzvah,
c'est une
obligation. Oui, c'est une mitzvah. Zenen obgehakt die Taschen mit Aveires, wie mit Blei, weil schon Kind lebt, etwas anders, nicht der halten sie in sei. Alors, tes poches sont pleines de péchés, lourdes comme du plomb, et c'est pour ça qu'aucune autre chose ne peut rester en elle. Voilà, donc là, on a vraiment le reproche de la grand-mère parce qu'elle n'a pas respecté la coutume de Taschlich. Elle n'a pas vidé ses poches de ses péchés, donc les péchés sont restés dans les poches. C'est une jolie image.
Une belle image, ouais.
Et il n'y a plus rien qui peut y rester, quoi. Si on met quelque chose dedans, ben, ça ressort, puisque les poches sont pleines de péchés.
Voilà. C'est terrible, cette histoire de péché. Quand même, les chrétiens ont bien repris ça. Ils l'ont encore magnifié, si on peut dire, puisque... Pour les chrétiens, on est toujours coupable de quelque chose. Et l'histoire de la confession et les péchés qui pèsent si lourd.
Oui. Alors là, il y avait... j'ai lu par hasard dans le calendrier bloc la parole d'un rabbin, malheureusement, je ne me rappelle plus lequel, qui disait « Pourquoi est-ce qu'on, à Yom Kippour, on égrène ses péchés par ordre alphabétique ?» Parce que si on voulait parler de tous ces péchés, ça n'aurait pas de fin. Mais l'alphabet, lui, a une fin. Donc ça s'arrête. Voilà, on a peut-être juste le temps d'écouter au moins un petit peu le Adon Olam.
Le Adon Olam, alors c'est pas spécifiquement pour Rosh Hashanah, mais Adon Olam, on le dit toute l'année. Alors Adon Olam, c'est une longue histoire et il y a beaucoup de versions, beaucoup d'airs. Même nous, qui ne sommes pas spécialistes, on connaît au moins 3 airs pour Adon Olam. Alors c'est un disque très intéressant, je crois que je l'avais présenté déjà il y a un moment, de Jacques Schwarzbart, donc fils de André Schwarzbart, et sa mère était de la Guadeloupe, je crois. Hein.
Oui.
Et donc c'est un mélange très heureux, puisque lui est devenu jazzman, et il a fait un disque qui s'appelle Khazan, mais il ne chante pas, il joue du saxophone, accompagné par piano et batterie, je crois. Et donc il a repris, c'est un montage de plusieurs airs de... pour Adon Olam, sur ce disque très intéressant. Vous verrez la qualité du son et la qualité des improvisations. Donc Adon Olam par Jacques Schwarzbart.
Et on vous dit déjà Shalom Aleichem, à la semaine prochaine.
Et merci Thomas. We'll be right back.
Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.